RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité basket en podcast, en téléchargement sur les plateformes et aussi sur YouTube. On peut vous retrouver, messieurs, de l'actu chaude et brûlante avec les playoffs NBA. Cette question, Stephen Curry, oui. A-t-il déjà plus marqué l'histoire que LeBron James ? Eh oui, on pose les vrais débats. Bonjour Stephen Brun.
Salut Arnaud.
Si tu avais été coéquipier de LeBron, oui. Tu te serais appelé Kevin Love. Ça te va ?
Ouais, ça me va. J'ai aucun souci avec ça, j'ai aucun problème.
Tu provoquais beaucoup de fautes offensives, c'est ça ?
Non, parce que je suis un grand blanc qui tire à 3 points, peut-être.
Ouais, pas mal aussi.
Fred Weiss, si tu avais été coéquipier de LeBron, tu te serais appelé Zydrunas Ilgauskas.
Je l'ai vu arriver.
Je prends aussi.
Très bon pivot, belle carrière, solide, 2m21.
Ouais, très bien.
Sacha Alix,
T'as trouvé personne là, non ?
Non. Toi, tu n'es pas un coéquipier. Tu es tout simplement le Dylan Brooks de la bande.
Waouh! Bon, allez, on prend. Moi, j'ai les cheveux soyeux, c'est bien.
Tu sais pourquoi on dit ça?
Pas du tout.
Tu essaies de rentrer un petit peu dans la tête des adversaires.
Ah. Tu peux me laisser parler?
Voilà.
Voilà. Et en plus, comme Dylan Brooks, il met pas un tir.
Oh, c'est pas vrai.
Vous êtes en forme, messieurs?
En pleine forme.
C'est un peu la meilleure période de l'année, là. Les playoffs NBA, on n'oublie pas l'Euroleague aussi, qu'on suit attentivement. Il y a plein d'actu, non ? C'est bien ?
Bah, c'est la meilleure période, évidemment, c'est ce qu'on préfère. Mais après, c'est vrai que ça s'enchaîne beaucoup, donc c'est un peu plus compliqué physiquement.
Et sachez que vous retrouverez un épisode bonus dans la semaine. Oui, on est comme ça.
Bonus ?
À Basket Time.
Comme sur
bonus.
Le CD à l'époque, il fallait laisser tourner la 17ème chanson.
Le bonus track.
Il y avait le bonus track arrivé.
Absolument. On parlera de l'équipe de France de basket, puisqu'il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu fin août. On connaît une partie du tableau de l'équipe de France, mais avec quelle équipe, hein ? Rudy Gobert hésitante, Joel Embiid ne va pas venir. Entre son genou qui lui fait mal et son mariage.
Qui va bientôt lui faire mal.
Vous pourrez écouter ça dans la semaine. Allez, on parle des playoffs, notamment direction l'Ouest, avec ce duel que l'on a envie de voir. Stephen Curry versus LeBron James.
LeBron has him in jail, got loose and lays it in. Curry, scoop layup. Oh, beauty from Steph Curry. James the trailer, got it. Curry, long distance, that's good. Steph Curry with his second three. LeBron got downhill, fades, fires, got it.
Curry with Murray on him, three-pointer,
puts it in! Oh, Steph Curry from way downtown!
Le récital, la partition parfaite pour Stephen Curry face à Sacramento dans ce match 7, gagné par les Warriors, 50 points, 8 rebonds, 6 passes, record de points pour un match 7. Stephen Curry qui va donc retrouver LeBron James pour cette série face aux Warriors. C'est quand même 8 titres de champion sur les 10 dernières années entre LeBron James et Stephen Curry. Peut-être revenir rapidement, Stephen, sur ce match 7 incroyable des Warriors et de Curry en particulier.
Oui, exceptionnel match, exceptionnelle prestation de Steph Curry qui avait avant, déjà après le match 6, tenu un speech qui est pas forcément dans sa nature, puisque Steph Curry n'est pas un mec qui est volubile de la parole. Et là, il a fait un énorme speech, apparemment.
Volubile, alors je te coupe, mais volubile de la parole, j'ai kiffé.
Ouais, voilà. Il a motivé tout le monde. Et il a surtout montré qu'il pouvait porter une fois de plus cette équipe. Et puis, dans un registre, alors oui, il y a les tirs à 3 points, mais ce qu'a fait Steph Curry, on ne parle pas assez de tous ses lay-ups, de toutes ses percussions, de tous ses drives qu'il met, ses finitions au cercle, en déséquilibre. Grand monsieur, mais bon, est-ce qu'il fallait avoir quelques doutes sur la capacité de Steph Curry à faire gagner un match comme ça ? Il a été fantastique. Et cette équipe des Warriors, dans sa globalité, a fait une série plutôt correcte, même s'ils sont crachés sur le match 6. Mais voilà, Steph Curry fait partie des plus grands, des très grands. On va sûrement en parler sur cette émission-là, mais bon, ce qu'il a fait dimanche soir en prime time heure française, bravo mon grand.
Avec des records d'audience hein, sur ces séries de playoffs, sur différentes chaînes, ESPN, TNT notamment, ils ont retrouvé une âme, les Warriors, non ? Incarné par Stephen Curry, on a beaucoup dit que c'était Draymond Green, Fred, qui représentait quelque chose dans son équipe sur le côté grande gueule, et là on a l'impression que Stephen Curry dévoile une autre facette qu'on ne connaissait pas forcément.
Bon, on savait que c'était un tueur, on savait qu'il était capable de plier les matchs, mais c'est vrai que là, il a pris son équipe sur le dos. Alors, j'avais pas tellement aimé son attitude au match 6, où il était tout le temps en train d'hocher la tête, d'un air de dire « c'est pas grave, on va revenir, tranquille ». Là, il a dit « ok, il faut un match de bonhomme, je vais vous sortir un match de bonhomme, un vrai match incroyable, avec des bons pourcentages ». Et c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de parler de Curry comme shooter, qu'on oublie tout ce qu'il fait d'autre, sur les percussions qu'il a fait, les pénétrations, les fixations, il prend des rebonds, il fait des passes.
Des trick shots incroyables.
Ouais, honnêtement, il a juste été monstrueux, et franchement, match de bonhomme, vraiment.
Parce qu'il fallait les taper, ces Kings, Sacha. On avait vu Sabonis, De'Aaron Fox, il fait une merveilleuse série.
On n'a pas vu Sabonis.
On n'a pas trop vu Sabonis. Ouais. Mais...
Non, c'était important. Et puis le message qui est fort, c'est que les Warriors, ils vont prendre celui-ci à l'extérieur, alors qu'on sait que c'était là où ils avaient des difficultés. Moi, honnêtement, quand ils perdent le match à la maison juste avant, je me dis ouh, attention, ça peut être dangereux, etc. Et bah, on voit que Steph Curry peut gommer toutes les malédictions et à un moment donné, être là pour pallier à tous les maux qu'il y a dans cette équipe. Et comme tu l'as dit, je pense que il manquait quelque chose pour l'instant dans ces Warriors en play-off et je pense que le supplément d'âme avec le petit discours dont tu as parlé Steve et avec ce match-là, il s'est passé quelque chose du côté des Warriors. Maintenant, face aux Lakers, c'est quelque chose qu'on attend, ça va être quelque chose.
Donc
après, en tant que big man, juste Kevin Looney. Kevin Looney, fantastique, il apporte énormément. Pour moi, le deuxième meilleur joueur des Golden State Warriors, au moins sur ce dernier match.
Et ça va être intéressant sur cette confrontation avec les Lakers. Looney qui s'impose en pivot. Les Lakers, on sait que AD va pas trop charbonner pour aller récupérer les rebonds. On va s'intéresser sur le banc de face à Curry. Mais Stephen, tu vois déjà quelque chose d'intéressant sur ce match-up, l'intérieur, ou Looney, c'est un effet passager?
Non, c'est pas un effet passager, parce que ça fait quelques années que c'est un énorme soldat dans cette équipe des Warriors, et il fait partie de l'ossature qui a été championne ces dernières années. Maintenant, c'est un autre défi pour Kevin Looney. Demande à Sabonis, l'option était de Looney reste dans la raquette, et Sabonis, lui, ben, il reçoit des ballons à 5-6 mètres, il regarde jamais le panier. Le problème, c'est que si tu fais ça avec Anthony Davis, tu vas prendre des filoches toute la soirée, donc c'est une match-up qui est plus compliquée pour Kevin Looney, parce qu'Anthony Davis est très grand et polyvalent, capable de jouer près du cercle, loin du cercle, donc ça va forcer Kevin Looney à sortir un peu plus loin de la raquette, donc peut-être avoir moins d'influence au rebond aussi.
L'articulation de la défense sera différente, parce qu'il y aura forcément des prises à deux, c'est ce qu'on a vu. Hein. Quasiment systématiquement des prises à deux pour essayer de stopper Anthony Davis, donc je pense que les Warriors vont être obligés de faire la même chose.
Ça va être compliqué. Alors est-ce que Draymond Green aussi va s'y mettre, même si Draymond Green, on a toujours loué les qualités défensives de Draymond Green sur les grands, il recule jamais. Là il y a quand même un différentiel de taille, et quand on se rappelle de la dernière confrontation, c'était le 5 mars entre les Warriors et les Lakers, Anthony Davis avait détruit les Warriors, il avait mis 39 pions, il avait fait mumuse avec tout le monde. Alors Draymond Green, il est bien, il est courageux, il est vaillant, il est tonique, mais il y a quand même 10 cm d'écart entre les deux, donc à un moment donné tu le payes. Donc la plus grosse problématique des Warriors, elle va jouer dans la raquette, en fait. C'est Anthony Davis qui a la clé de cette série, pour moi. C'est même pas LeBron, c'est même pas... Enfin, ils sont importants, mais c'est Anthony Davis qui peut faire la bascule du bon sens.
C'est-à-dire sur son adresse, parce qu'on l'a vu avoir quelques trous.
Sur son impact. Sur son impact global, parce qu'il est capable. Parce que t'es un peu dur, tu dis qu'il va pas aller batailler au rebond. Oui, il va aller batailler au rebond. Défensivement, il a été monstrueux. Et en plus, il est capable de marquer des points près du cercle. Alors oui, il y a l'adresse, on en a parlé, et ça va obliger Kevin Looney à sortir un peu plus. Mais à l'intérieur, il peut le massacrer aussi.
4 contre de moyenne.
Même de l'autre côté, puisque on sait que Steph Curry va avoir beaucoup de ballons, que ce soit sur des iso ou des pick and roll, Anthony Davis va pouvoir sortir fort pour permettre à Steph Curry de lâcher la balle, puisqu'il n'y a pas de danger. Kevin Looney, Draymond Green ne sont pas des forts attaquants, ne sont pas des tireurs à 3 points, et donc Anthony Davis va pouvoir prendre des risques sur les porteurs de balles des Warriors. Donc il va falloir que Steve Kerr trouve une solution pour justement mettre des points quand Steph Curry va être doublé.
Ce qui sera le cas à chaque fois.
Va être doublé, voilà.
Évidemment, on s'attarde sur LeBron James face à Curry, parce que je vous le disais, c'est quand même sur les 10 dernières années, c'est 8 titres de champion, c'est deux monuments de la NBA, de notre sport. Ils ont représenté, ils incarnent cette génération. Sacha, c'est le meilleur marqueur de l'histoire versus le meilleur shooter de l'histoire, peut-être même meilleur meneur de l'histoire. Est-ce que pour toi...
Magic va être content d'écouter cette phrase.
Je sais pas, je pose la question. Est-ce que ces deux joueurs, pour toi, Sacha, jouent gros lors de cette série ou pas?
Bah, en fait, c'est le duel du peuple, entre guillemets. C'est le duel qu'on a envie de voir sur cette génération de basket. On veut avoir envie de trancher, et ils ont le même nombre de titres. Est-ce que LeBron est au-dessus de Curry? Est-ce que Curry peut être au-dessus de LeBron? Je pense que c'est aussi ça, la narration autour de cette rencontre-là. Après, il y a ce côté aussi californien. Ça fait 32 ans qu'ils ne sont pas affrontés en play-off, les Warriors et les Lakers. Franchement, j'ai un peu peur pour les Warriors, parce que ces Lakers-là, ils me font penser à des Lakers qui sont champions dans une bulle, statistiquement, hein, pas dans la manière de jouer, dans le sens où c'est une défense intérieure qui est ultra solide, c'est l'équipe qui met le plus de contre, et je pense que ça va être difficile pour Golden State, parce qu'on sait qu'ils aiment bien driver pour ressortir, là ils vont tomber sur des os à chaque fois, et je pense que ça va défendre très 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 dur. C'est le meilleur
équipe
défensif.
Mais qui est le meilleur, c'est la question, qui est le meilleur?
Arrête de le chauffer déjà, arrête de le chauffer.
Qui a le plus marqué l'histoire?
C'est LeBron James, il y en a un qui est meilleur marqueur de l'histoire. Alors Steph Curry change le jeu et c'est propre à lui, mais j'ai des souvenirs de LeBron James à Cleveland très jeune, qui déjà pull-up à 2 mètres derrière la ligne et des tirs à 3 points. Je dis pas que c'est lui qui a créé le truc, Curry il a sublimé ça derrière, mais ces années dans lesquelles on est,
La tête de Stephen que vous pouvez voir sur YouTube. On est sur YouTube également. Hein.
Tu veux dire que LeBron James a sublimé le tir à 3 points avant Steph Curry?
Non, Curry a sublimé le tir à 3 points que très James très loin.
Il envoyait des briques à
LeBron James envoyait déjà quand Curry n'était pas encore NBA.
Envoyé.
Ouais. Et rentré aussi. Pas, et rentré aussi. D'accord. Non mais... Quand il met quand
c'est
il met
blanc, ils ont changé 4 fois de panier. Hein.
Non, mais rappelle-toi le méga buzzer qu'il met face à Orlando. Tu vois déjà.
Tu m'en cites un.
Ouais, mais ils ont parlé quand même d'aligne à 4 points à cause de Stephen Curry.
Ah, mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Grâce à Stephen Curry.
Non, à cause.
Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il a eu sa spécialité et je pense qu'il s'est en plus bonifié avec le temps un peu à la manière d'un Tony Parker, à qui je vais rendre un petit peu hommage pour une fois. Je trouve que Curry s'est bonifié avec le temps dans sa manière de prendre les tirs, d'être de plus en plus efficace et vu d'où il tire et comment le volume de tirs qu'il a, c'est assez impressionnant. Mais non, LeBron a 100 fois plus marqué l'histoire parce que les décennies ou quinzaines d'années dans lesquelles on est, elles lui appartiennent en fait. Curry a juste rajouté un petit peu de sauce
il
dessus.
Il a révolutionné le jeu.
Oui, mais comme Iverson est arrivé en NBA a révolutionné le jeu, mais c'est pas lui qui dominait l'époque, tu vois. Pour moi, c'est la même chose.
Alors que là, il a révolutionné le jeu et dominé. Il a quand même 4 bagues, Stephen.
J'ai envie de dire que Sacha a raison sur LeBron Curry, même si la comparaison est compliquée. Maintenant qu'il me lâche 100 fois, LeBron a 100 fois, c'est beaucoup.
Il y a une vraie discussion. Pour moi, il y a une vraie discussion. Et pourtant, je suis un grand fan de LeBron.
C'est philosophique presque. Hein.
Alors oui, LeBron a cette qualité, mais est-ce que c'est vraiment une qualité d'avoir été champion avec trois équipes différentes? LeBron, bien sûr, avoir dépassé Kareem Abdul-Jabbar fait que dans la tête des gens, c'est devenu forcément pas le GOAT, mais se rapprocher de plus en plus de Michael Jordan. Mais il faut aussi... Enfin, je trouve que en termes de code d'amour, je trouve que Steph Curry est devant LeBron James. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de haters de LeBron James, mais plus t'as de haters, plus ça veut dire aussi oui. que t'es très haut, très très haut. Et je trouve qu'il y a plus de sympathie envers Steph Curry qu'envers LeBron James. Et bah, alors que LeBron James,
mais tu sais pourquoi aussi
tout simplement
physique lambda ou quasiment
bien sûr,
lambda.
Bien sûr,
donc c'est plus facile de s'identifier à lui que LeBron James qui est un mammouth quoi.
Après, cette bouille un peu de gamin aussi.
Oui. Après Steph Curry a fait des choses. Hein. C'était le seul MVP unanime à l'unanimité. Cette saison fantastique, il y a 4 bagues aussi avec une seule équipe. On peut reprocher à Steph Curry d'avoir aussi gagné 2 bagues avec Kevin Durant et avoir un petit peu quémandé l'aide de Kevin Durant.
Ouais, mais il se sauve justement parce qu'il a gagné avant et parce qu'il a gagné après.
Aussi,
et ça rattrape quand même beaucoup
aussi.
De choses.
Le titre de l'année dernière aide aussi un peu Steph Curry parce qu'avant ça, il n'avait pas été MVP des finales une seule fois sur les titres des Warriors et donc il a lavé l'affront en 2022 en étant MVP des finales. Maintenant, LeBron, si on prend en dehors du terrain, je trouve que LeBron a un petit peu d'avance aussi en termes de politique, en termes de ce qu'il fait, l'impact en dehors des terrains. Je trouve que LeBron, son aura va au-delà du Évidemment. Basket par rapport à Steph Curry. Maintenant, ce sont deux joueurs fantastiques et si jamais il y a une cinquième bague pour l'un ou pour l'autre, et là, peut-être que la hiérarchie pourrait changer.
C'est vrai qu'on a tendance à... On met LeBron James et peut-être Curry un peu en dessous, sauf que quand on voit finalement, si on est factuel, on peut peut-être les mettre sur un même pied d'égalité, non ?
Alors, moi, injustement, je pourrais jamais te dire ça parce que par définition, je préfère LeBron James. Mais c'est vrai que quand on m'a proposé ce débat, mais justement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment si important le gap entre les deux ? Il faut quand même se rappeler, Sacha l'a dit, que Steph Curry, il a quand même changé et révolutionné le jeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de basket qui ont révolutionné le jeu. Moi, je pense à Kareem Abdul-Jabbar, par exemple, qui a proposé des choses un peu différentes.
Jordan
Jordan, oui, mais...
Il a amené le basket aérien.
Voilà, c'est ça. Ouais, sauf qu'il y avait déjà Dr. G qui était quand même très aérien à l'époque aussi. Pour moi, vraiment, le mec qui a fait cette différence, pourquoi on shoot tant à 3 points?
Et pourquoi tu vois des gamins aujourd'hui dans les écoles
Exactement.
De basket
ils veulent, voilà. parce qu'il a un physique lambda, parce qu'il a un shoot incroyable, et qu'on s'identifie à lui. Et il a eu des choses incroyables. Il est 4 fois champion, on le disait. Moi, honnêtement, je trouve qu'il s'en rapproche. Alors LeBron, pour moi, il sera toujours au-dessus parce que plus complet, parce que plus capable de créer pour les autres aussi, parce qu'il est capable de prendre des rebonds aussi. Mais je trouve que Steph Curry, il rentre dans mon cœur finalement.
Il a la table.
Après, il faudra voir où en est Steph Curry quand il aura 38 ans. S'il est capable encore de performer comme le fait LeBron James actuellement. Enfin, la saison régulière de LeBron James, on a beau le répéter, LeBron James, il a 38 balais, il a fait une saison régulière de très haut niveau. Il a fait des playoffs, une première série qui peut-être en termes de stats sont en deçà, mais il a fait un 20-20 à 38 balais où c'était du jamais vu. Donc Steph Curry est encore plus frais, j'ai envie de dire. LeBron James est arrivé en 2002 ou 2003 dans la Ligue. Steph Curry est arrivé un peu plus tard, donc il faudra aussi comparer une fois les carrières terminées si Steph Curry finit aussi bien que LeBron James, parce que LeBron James il finit bien quand même. Hein.
Après Steph Curry il a un gros avantage, il est beaucoup moins lourd.
Il est beaucoup moins lourd, mais il y a des séquelles,
les chevilles,
de blessures,
oui,
les chevilles.
Bien sûr,
mais
ce que je veux dire, c'est plus facile de durer dans le temps, en théorie, encore une fois, hein, quand on est moins lourd que quand on est un poids lourd qui va toujours à l'impact, qui va toujours au combat, comme à LeBron James.
35 ans, Stephen Curry. Votre pronostic sur cette série Warriors-Lakers, Sacha?
Je vais dire Lakers en 4-2.
Lakers 4-2, Fred.
Je suis désolé parce que je pense exactement la même chose que Sacha et rien que de le dire, ça me fait de la peine. Mais Lakers sont 4-2 aussi.
Warriors 4-3.
4-3 en match 7.
Oui.
Incroyable.
Au Chase Center.
Avec 51 points pour changer un petit peu.
Exactement.
Je trouve que moi j'irais plus dans ton sens. Je trouve que les Warriors ont retrouvé un petit côté feu sacré. Même si les Lakers sont une âme, mais je pense que.
Tu vas aller voir le match à Los Angeles, Arnaud, ou pas?
Je sais pas.
T'es en vacances du côté de LA, on m'a dit.
Écoute, on va voir.
Tu vas aller voir les fresques de Tupac Shakur.
Ça, je vais aller voir. Ça coûte moins cher que d'aller à la Crypto.com Arena, je te le cache pas. Parce que...
Pourquoi, t'as checké un peu les tarifs?
Oui, c'est 400 euros, 400 dollars était tout en haut.
Faut faire péter le livret, alors, j'ai l'impression.
Oui, voilà, c'est un petit peu compliqué. On peut rester raisonnable quand même, sinon ça se finira dans un sports bar.
Et voilà, tranquille, voilà. Avec 2-3 binous et quelques donuts. Hein.
Voilà.
Voilà, parfait.
On continue à l'ouest, puisqu'il y a également une autre série, messieurs. Les Nuggets qui mènent 2-0 après leur deuxième victoire à la maison face aux Suns, 97-87. Avec un Nikola Jokic de gala, 39 points, 16 rebonds, 5 passes, 17 sur 30 l'adresse. Est-ce que ça sent bon la finale de conférence pour vous, Stephen, pour les Nuggets, ou les Suns vont se réveiller?
Ça sent très bon pour Denver et ça sent mauvais pour les Suns. C'est Chris Paul notamment qui a quitté ses coéquipiers avec une blessure à l'adducteur. Donc c'est Chris Paul le poissard une fois de plus en playoff. Finalement, on se rend compte que ce trade de KD qui a excité tout le monde, on avait dit attention parce qu'ils ont quand même... liquider beaucoup de joueurs.
Le banc, il s'est amoindri.
Et ben là, tu te rends compte que finalement, il n'y a pas de banc. 4 points du banc de touche, alors que Monty Williams a utilisé 6 joueurs. Chris Paul, qui joue que 25 minutes et qui n'est pas bon. Et surtout, Nikola Jokic, qui a fait de DeAndre Ayton sa poupée, en fait, son joujou. Il a détruit DeAndre Ayton. Il a tout fait, des fins, des up and under, des tirs à 3 points. Et DeAndre Ayton, il a le tourni encore.
Mais vous avez vu cette séquence?
Il s'est allongé.
Il ne bouge pas sur 2 rebonds ou 3 rebonds de suite de Jokic. Près du cercle, il est là, il est derrière la ligne.
Mais l'observateur, il dit qu'est-ce qu'il est fort ce pivot.
Il apprend auprès de lui, je pense. Il a envie de s'imbiber un peu de ça.
C'est, ouais, donc Jokic, superstar. C'était Jamal Murray, la superstar sur le match 1, même si Jokic avait été très bon. Voilà, Phoenix s'en sortira uniquement avec un énorme Durant, parce que Durant hier met des points. Mais attention, mauvais pourcentage, et c'est pas.
Il y a 2 sur 13 à 3
et c'est
points.
Pas la coutume de KD.
2 sur 13 à 3 points.
Premier match, il a perdu 7 ballons. Là, il tire à 10 sur 27. On rappelle que KD, on a toujours loué ses qualités de tir, sa propreté des matchs. 10 sur 27, c'est beaucoup de gaspillage. 56 tirs à 2 entre Booker et Kevin Durant, c'est beaucoup. Il va falloir trouver d'autres solutions. Maintenant, Denver 2-0, comme prévu. Hein. Denver dans le Colorado, c'est compliqué de gagner.
Et en
Phoenix,
altitude.
Ça a une énorme pression. Et s'il n'y a pas Chris Paul, le petit Cameron Payne à la tête de souris, ça n'a pas été terrible hier. S'il doit être starter, ça va être compliqué pour les Suns.
L'annonce du MVP de la saison aura lieu vraiment dans la nuit de mardi à mercredi. Ça devrait être Joel Embiid, sauf grosse surprise. Donc finalement, Jokic, qui n'aura pas son troisième titre de suite... Est-ce que c'est pas la bonne année pour lui, quelque part, paradoxalement?
C'est Pierre Dorian.
Pour Pierre Dorian, il va dire oui. Mais finalement, on aurait dû lui donner. C'est la première année où il serait d'accord à le donner à Jokic. Ouais, mais honnêtement, Jokic, il est vraiment en mode je fais ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il passe le ballon quand Jamal Murray est en forme et quand il faut prendre les responsabilités. Parce qu'on l'a vu hein, sur le match 2 directement, il prend ses responsabilités. Il finit à 39. Hein, 39 et 16. Donc effectivement, DeAndre Ayton n'existe pas. C'est trop compliqué de jouer à 4 pour moi. Ils ont vraiment rien du tout pour les aider. Il va falloir trouver des solutions. Et surtout, moi j'aime beaucoup le jeu collectif de cette équipe de Denver.
Sacha, tu es d'accord? Moi c'est vrai que je voyais quand même les Suns, début de cette campagne de play-off, aller presque au bout. Mon bracket, je les ai mis au bout.
C'est quand même incroyable, enfin, le manque de respect, moi, je me mets dedans, qu'on a par rapport à Denver, le manque de considération qu'on a par rapport à Denver, qui a fait une saison à l'Ouest fantastique, même s'il y a des équipes qui ont sous-performé. C'est une équipe qui a perdu 7 matchs dans leur salle. Et à chaque fois qu'on leur met un adversaire en play-off, on dit attention, ils vont passer. Enfin, rappelez-vous de la question en conférence de presse à KD, vous êtes surpris par les Nuggets? KD a dit surpris. Ouais, mais ils sont à l'Ouest.
Mais c'est vrai que cette année, avec Murray en plus, Porter Junior en plus.
Et Aaron Gordon qui fait une saison fantastique.
Mais en fait, c'est l'habitude. l'habitude. On a eu l'habitude que ça fonctionne pas, que ça s'écroule un petit peu en playoff. Et malheureusement, cette habitude, elle est comme ça.
Sacha. Ouais.
C'est exactement ce que vient de dire Fred. C'est que ça fait plaisir de voir des Denver qui, enfin, des Nuggets, pardon, qui s'effondrent pas au milieu des playoffs et qui sont rassurants, en fait, qui sont solides. Je pense que la présence d'Aaron Gordon à côté de Nikola Jokic, elle est essentielle et c'est ce qui a rajouté ce côté-là à Denver. Par contre, ouais, effectivement, Phoenix, c'est hyper inquiétant. La rotation, la gestion de Monty Williams, ça fait peur. Et franchement, bah, je suis content pour Nikola Jokic parce qu'il avait une fausse réputation de celui qui baisse un petit peu de régime en playoff. Je pense que là, il est en train de prouver justement qu'il est encore frais pour faire du sale en playoff. Et je pense que c'est mérité qu'il aille le plus loin possible. C'est moi MVP à moi, vous le savez, Nikola Jokic. Ouais.
Vous avez vu la déclaration de Jokic, on lui dit ah, vous allez faire quoi ce soir?
Oui, la piscine.
Pour la remise des trophées, l'annonce, il dit bah, bon, je vais aller à la piscine.
Récupération, c'est voilà. Important. À la direction l'Est, messieurs, avec évidemment un alléchant Celtics. Philadelphie 76ers. And Harden takes it inside. Now James Harden from two-point territory. Plenty of time to work. The weaving Tatum flying in for two. It's Harden and a three. Got it again. Smart. How about a finish? And what a finish. Tatum triple. Tatum over Harris with a three. Wow. Tatum. Oh, he's a flamethrower. Harden sizing up Harper. It's a three. Good. Sans Joel Embiid, dont l'état de son genou inquiète, les Sixers ont récupéré l'avantage du terrain en s'imposant dans la nuit de lundi à mardi, 119 à 115 au TD Garden. James Harden, 45 points à 17 sur 30 comme Jokic, mais il a rajouté 7 sur 14 à 3 points, 6 passes pour le barbu. Les Celtics ont perdu 16 ballons. Croyez-vous aux Sixers sans Embiid? Fred, ça tombe bien, tu étais au commentaire sur le diffuseur français de la NBA de cette rencontre. Surprenant, les Sixers ou c'est les Celtics qui t'ont déçu?
Boston m'a beaucoup déçu défensivement. Défensivement, ils ont voulu jouer au jeu de celui qui marque le plus. Alors que c'est pas du tout le jeu de Boston, ils devraient commencer à défendre un petit peu, durcir le ton. Ils ont des défenseurs dans leur équipe et ils ont laissé cette équipe des Sixers développer leur jeu complètement avec un James Harden qui est d'entrée à commencer à mettre des points. Ça a manqué de dureté, c'était porte ouverte, des pourcentages de réussite à la mi-temps qui étaient monstrueux. Donc tu peux pas jouer comme ça, mais si ta question c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent s'en sortir sans Joel Embiid, non, mais ils ont gagné un match de repos pour lui. Parce qu'ils ont déjà pris l'avantage du terrain et ça leur permettra sur le match 2 de peut-être pouvoir faire reposer Joel Embiid sans précipiter son retour.
Parce que ça fait des Sixers extrêmement petits. Je ne dis pas qu'à Boston, on a de très très grands intérieurs. On a même plutôt des intérieurs peut-être un peu fuyants, mais... Ouais. Stephen.
Écoute, bravo le barbu déjà. Bravo le barbu parce qu'on avait toujours quelques doutes sur est-ce qu'il est encore capable de produire ce genre de rencontre. Lui qui s'est un peu mué en deuxième lame aux côtés de Joel Embiid, plus sur un meneur organisateur. Pendant des années, quand James Harden faisait ce genre de performance-là, on disait « ça ne marchera pas, il ne peut pas gagner en faisant ça ». Ensuite, c'est devenu un meneur un peu organisateur à 20 points, 12 passes, en disant bah, « ça y est, James Harden, il est fini, il ne peut plus faire des cartons ». Bon, bah, là, il a dit « écoutez, je suis encore James Harden ».
Mais rappelle-toi, on l'avait dit, hein. On avait dit qu'il allait monter son niveau forcément au play-off et c'est ce qu'il fait.
C'était obligé. Alors, il n'y a plus cette relation de pick and roll, c'est pour ça qu'il y a un nombre de passes un peu moindre pour James Harden parce qu'il a plus cette relation avec Joel Embiid et Paul Reed, même s'il fait un match honnête, ce n'est pas
en deuxième mi-temps.
N'a pas les mains de Joel Embiid, mais James Harden est fantastique. Tyrese Maxey, sur les prises de responsabilité au scoring, il est là. Et puis ils ont trouvé un petit Melton en sortie de banc qui a été bon en mettant 20 pions et surtout 6 ballons perdus. C'est exceptionnel à l'extérieur sur une défense de Boston qui, en saison régulière, a été 3e au defensive rating, perd que 6 ballons. Ça vous permet de voyager et d'exister sur des rencontres. Après Boston, Café Boston, premier match à domicile, vous défendez pas un cachou comme ça, vous jouez au jeu de je vais mettre plus de points que l'autre. Jalen Brown qui prend que 10 tirs seulement, un très haut pourcentage, 16 ballons perdus,
dont 6 pour Smart.
Moi j'ai trouvé Philly très près du texte. Quand il y a des switches défensifs, on va trouver Tobias Harris défendu par un plus petit qui punit en dessous du cercle. Donc voilà, et puis il y a cette balle perdue catastrophique à la fin. Donc je sais pas si un problème
incroyable.
Ouais, je sais pas, un problème de couleur, je sais pas. Le mec était tout seul, hein, c'était un bon tir, sauf que c'était une passe
D pour la contre-attaque.
Pour l'opposer. Et puis voilà, James Harden, le petit step back, il voulait un switch, il provoque le switch sur Al Horford, le petit step back, voilà, Al Horford qui sert de viseur. Game over. Maintenant, sur la durée de la série, si Joel Embiid joue pas, je vois pas Philly s'en sortir.
Impossible.
Même si du côté des Celtics, on sait qu'en playoff, les rotations sont très resserrées, mais même du côté des Celtics, c'est très resserré. Ils ont joué à 7 hier, Sacha.
Ouais, après, franchement, je vais être un peu dur avec les Celtics. J'étais hyper déçu. Ils ont donné le match, clairement. Parce que franchement, je trouve qu'en première mi-temps, ils contrôlaient bien. Mais la succession d'erreurs qu'il y a sur la fin du match, la gestion...
C'était en faux semblant qu'ils contrôlaient. Hein, parce que je te dis, ça défendait pas du tout. Donc effectivement, ils sont très adroits parce qu'ils percutent beaucoup, ils mettent beaucoup de points dans la raquette. Sauf que réellement, tu te dis qu'à un moment, tu fais pas la différence. Et à un moment,
le
pourcentage va forcément baisser. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est ça. Et en fait, tu reconnais, comme tu l'as dit, Fred, on reconnaît pas le Boston qui peut mettre de l'intensité, qui va jouer dur. C'était un Boston qui flopait dans tous les sens. C'était horrible. Mais vraiment, Smart, il a été, je trouve, catastrophique. Je pense qu'il donne le match aussi en grande partie. Hein, parce que la dernière perte de balle de Boston, c'est lui qui cherche Tatum sur un truc.
Il a pas été très smart pour le coup.
Non, pour le coup, vraiment pas. Et ouais, je trouve que Boston a pris cette équipe de Philly de haut. Je pense que James Harden a vraiment pas aimé ça et qu'il leur a montré qu'il était bien en place. Et après, sur la durée, je pense que vraiment, si Boston joue son jeu, met de l'intensité, un petit peu de percussion, Philly suivra pas. C'est un Philly qui est intéressant aussi sans Embiid. C'est bien de voir ce visage là et de montrer qu'ils peuvent faire des choses et que Harden peut prendre le relais. Mais franchement, normalement, Boston, en vrai de vrai, si Philly joue comme ça, ils sont censés leur rouler dessus. C'est vraiment.
Après, peut-être qu'il y a eu. Ça a peut-être déstabilisé la non-présence de Joel Embiid, parce que Joe Mazzulla avait dit en avant-match, nous, on va tout préparer avec Joel Embiid sur le terrain. C'est-à-dire que la défense, les adaptations défensives, c'est pas du tout les mêmes.
Il a fait le shooting d'avant-match, non?
Oui, il a fait le shooting d'avant-match, donc il a berné tout le monde. Et tu te retrouves à jouer une équipe sans vraiment big man. Donc c'est peut-être que ça a bouleversé un peu les plans de Boston. Ils ont été perturbés.
Forcément, parce qu'au départ, ils ont dû prévoir, comme tout le monde, des prises à deux systématiques.
Les prises à deux, les rotations sur le pick and roll.
Ils étaient super larges, tu sais. Il y avait trois joueurs très
au niveau de la ligne. Tu dis, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, donc peut-être qu'ils se sont fait attraper.
Bon, PJ Tucker qui a pas pris un shoot. Hein.
Ouais. Ouais, mais c'est la spéciale.
Comment c'est possible? Moi, je joue.
36 minutes.
Je sais pas comment c'est possible. Même si j'ai pas envie de shooter, à un moment donné, t'es tellement tout seul que t'es obligé de shooter. En fait, c'est pas possible. Ouais, peut-être qu'on lui enlève des sous s'il tire à PJ Tucker. C'est incroyable.
Il est pas dans le corner, il a pas le droit.
C'est incroyable de faire un match sans shooter.
36 minutes,
zéro tir. Alors là, bravo.
Moi, j'ai vu une action où le mec est dans la raquette et il dribble, mais très fort pour aller à la ligne à 3 points.
Ouais,
mais,
ouais.
Tu vois, pour s'écarter du cercle et pour faire le main à main. Incroyable.
Ouais. Votre pronostic sur cette série?
Je peux pas pronostiquer parce que je sais pas quelle va être la suite de Joel Embiid. S'il joue, s'il joue pas, c'est trop compliqué pour moi. Et d'ailleurs, ces playoffs sont compliqués parce que là, on a parlé de Chris Paul qui est blessé, Butler qui va peut-être pas jouer le match 2, Yanis qui a été pété au début de la série.
Brunson qui est peut-être blessé aussi.
Brunson, Julius Randle qui a pas joué le match 1. En fait, l'équipe qui sera championne NBA, c'est l'équipe qui sera épargnée par les blessures. En fait, c'est peut-être même pas la meilleure équipe. C'est l'équipe qui aura
un rassemblement. C'est bien, peut-être qu'on va pouvoir enfin poser le débat sur cette saison régulière.
C'est de la merde, elle est trop longue.
Bon, parce qu'on ne sait pas l'état d'Embiid, on ne parie pas.
Moi je pense que si Embiid vient, je pense que Philippe peut gagner, mais Boston, s'ils défendent correctement aussi, ils vont gagner aussi. Enfin, c'est très compliqué. Non, en 7, en tous les cas, j'imagine en 7.
Ah, moi, je vois Boston 4-2. Enfin, Philadelphie, pour moi, ils vont répliquer le schéma qu'on leur connaît, c'est sortir au deuxième tour et être un peu décevant. Bon, j'ai plus d'espoir pour ces Sixers, je suis désolé, hein, vraiment, ces Sixers version...
Pourquoi tu les enterres comme ça quand tu...
Mais parce que ça
fait... Surtout, ils viennent de gagner.
Non, mais parce que ça, je pense que c'est le même schéma qu'on voit depuis des années sur les Sixers en playoff.
Comme avec Denver,
justement, ils sont en train de pallier ça. Et on voit encore un Philadelphie qui prend un match, crée une surprise sans Embiid en playoff au deuxième tour. C'est toujours le même scénario, vraiment, depuis des années. Et à chaque fois, ils sortent au deuxième. Je vois pas pourquoi ils sortiraient pas cette année, sachant que Boston leur donne le match. Et je vois, et je vais être encore plus dur. Je vois même pas avec l'impact d'Embiid, si Boston joue bien, comment ils peuvent passer, Philly. Vraiment, j'ai pas vu en fait cette espèce de step-up playoff qu'ils ont. Boston, je trouve qu'ils la jouent facile parce qu'ils sont restés sur le mode Atlanta, ça joue soft, etc. etc. Mais s'ils passent en mode playoff comme on les connaît, après, Boston, pour moi, c'est fini d'entrée.
Après, les Celtics, moi, je trouve qu'ils manquent beaucoup de sérénité face à Atlanta. Ils se font peur, ils s'envoient un match 6.
Un peu hautain, tu vois.
Triangle les a climatisés sur un tir à 3 points dans leur salle.
Ils sont pas totalement en mode playoff.
Non. Peut-être qu'ils étaient déjà focus sur les Sixers. Après, les Sixers, tu me diras, c'était Brooklyn face. Bon, il leur a mis 4-0, peinard, propre. Donc, je trouve que t'es un peu sévère, je trouve, que sur Philly.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il suit au premier tour, au deuxième tour, il commence par une victoire, et lui est en train de dire, mais ils sont en train
je trouve que tu sous-estimes aussi l'impact que Joel Embiid peut avoir sur une équipe. Alors, on m'a toujours dit, alors forte, c'est la kryptonite de Joel Embiid. Enfin, à un moment donné, la kryptonite, elle va commencer à tirer la langue.
Il a mis 52 contre Boston.
Et les adaptations défensives.
Ouais, mais c'était contre l'équipe B de Boston. Enfin, il y a plein de circonstances sur ce match-là. Boston joue pas à fond, il y a une prolongation qui fait ce match-là à prendre en référence pour Embiid face au Boston, je trouve que c'est une erreur parce que c'est vraiment pas le Boston qui est censé affronter Philly à ce moment-là.
Ben, après, ils m'ont montré la même chose. Après, défensivement, ils m'ont montré exactement la même
chose. Si Embiid joue,
ils sont pas dedans.
Si Embiid joue, je suis pas sûr qu'il reste en un contre un sur du post-up. Ils vont venir doubler. La qualité de passe de Joel Embiid, ça va faire un vrai casse-tête avec tous les shooters qu'il y a autour. Donc,
après, Doc Rivers s'est embêté sur leur zone aussi. Hein. La zone 2-3
un peu. Tu veux dire un truc incroyable. Tu veux dire que Doc Rivers a coaché.
Honnêtement, moi, je pensais pas le dire non plus, mais concrètement, bah, il a proposé quelque chose qui les a un peu embêtés.
Lui aussi, il a le droit de progresser.
Et je pense que c'est un duel qu'on n'évoque pas, mais je pense que justement, le petit avantage que peut avoir Rivers sur le coach rookie de Boston, ça peut jouer sur ces fins de match-là. Et je pense que là, il sait qu'il s'est un peu loupé, le coach de Boston, sur ce match-là. Donc, à mon avis, il va falloir vraiment.
Coach rookie en playoff.
Bah oui, c'est ça. Et Rivers, on sait qu'il peut être malin, même si c'est pas le plus grand tacticien de l'histoire.
Faut changer de direction, Rivers.
Un mot de cette série entre les Knicks et le Heat. Les Knicks sans Randle se sont fait attraper à domicile par le Heat 108-101. Là aussi, inquiétude pour Jimmy Butler qui s'est donné une grosse entorse de la cheville. 25 points de rebond quand même pour lui. Comment vous voyez la suite, Stephen?
Pardon? En fait, j'ai Geoffrey Charpie, le producteur de l'émission.
Oui, tu es dissipé. J'ai envie de te mettre moi un point pour le quiz.
Par contre, c'est Geoffrey qui va prendre à la sortie de l'émission. C'est pour moi.
Comment tu vois cette série?
Là aussi, je sais pas. Je pense que Miami, et Fred en a parlé tout à l'heure avec Joel Embiid, c'est que Miami peut éventuellement faire l'impasse et protéger Jimmy Butler sur le match 2 en ayant gagné le match 1 au Garden. Après, j'ai été déçu de la façon dont New York a joué au basket sur ce match 1 en attaque.
Ça avait plutôt pas trop mal commencé. Avec Obi Toppin qui était bon.
Mais est-ce que Obi Toppin prendre 11 tirs à 3 points sur un match.
Non. Il a
que du pick and pop. Alors, il a eu beaucoup de responsabilités parce qu'il a joué les minutes de Julius Randle. Jalen Brunson a été fantastique dans le petit périmètre. Dès qu'il drive sur sa main gauche, c'est incroyable de trouver des positions de tir. Par contre, 0 sur 7 à 3 points, ça leur fait mal. En attaque, ça a été que du 1 contre 1. Ils n'ont pas fait travailler la défense de Miami. J'ai trouvé ça brouillon. Et puis Jimmy B, quoi. Jimmy Butler, 25 points, 11 rebonds, 4 passes. Qui, même en ne pouvant plus jouer au basket sur les 4 dernières minutes, il a fait cogiter les Knicks. Il restait dans le corner. Il a pris un tir. Il n'a même pas touché le cercle parce qu'il ne pouvait pas pousser sur sa cheville. Kylori, Bouboule a été incroyable.
Il est de retour sur ce match-là.
La gestion des moments importants, les mains, la fouine, il touche des ballons, il met 4 contre alors qu'il fait 1m35, il a 12 cm de détente, il va jouer des charges, il est toujours là, il met des points. Gabe Vincent a été exceptionnel. Donc voilà, écoute, Adebayo n'a pas été très bon en plus.
Non, c'est vrai.
Donc comme Miami, belle équipe de basket, maintenant une victoire obligatoire au Garden, surtout si Jimmy B est absent, quid de Julius Randle, mais les Knicks, ils peuvent pas tourner à 0-2 en allant en Floride, parce que sinon c'est merci, au revoir.
Sinon c'est sweep, c'est clair. Non, il faut absolument que les Knicks prennent ce match. Mais moi j'ai entendu que Brunson était incertain pour le match. Randle qui est pas là, t'as tes deux go-to guys qui sont pas là, ça peut être compliqué quand même.
C'est Quickly qui va shooter 47 fois.
Ouais, là, ça va être super passionnant, vraiment.
Et si c'était le retour des Van Fournier? Parce que je peux te dire que dans ce match 1, alors je sais qu'il est blacklisté de la rotation, mais à un moment donné, quand t'es à 7 sur 34 à 3 points, je me dis peut-être qu'Evan, c'est un peu son job de mettre des. Il aurait pu mettre quelques pantons en fait.
Ah non, mais complètement
d'accord. Le
petit Bodo va au bout du truc, voilà, il va au bout du truc, y a pas de problème.
Allez, on avance rapidement parce qu'on a beaucoup parlé des Warriors et Lakers. Pour la partie historique, dans un instant, on va s'intéresser aux plus belles performances d'un joueur dans un match 7. Irving and Curry, one on one. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. Jesus feels it. It's deflected away. Rick Popovich holds on. Fires down low, throws it away. Intercepted by Frazier. He's across the midcourt line to the right sideline. Now spins the other way. Cutting on White. Pulls up. Jumper. Good. James pulls up. Puts it in. 4-point lead. 35 for LeBron James. Timeout San Antonio. Ça t'a beaucoup fait rire, les vieux commentaires, ouais. Stephen et Fred.
Ouais.
Et Fred Weiss avec son petit crochet droit. Voilà.
C'était Christophe Sissu qui commentait en anglais.
On le salue, Christophe. Stephen Curry, 50 points pour un match 7. Victoire des Warriors face à Sacramento. Il y en a eu quelques-uns des matchs 7. C'est tous les ans, on a quand même droit à quelques matchs 7. Beaucoup ces dernières années, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a une performance d'un joueur qui vous a marqué? Qui veut commencer, Sacha?
Si tu veux.
Rondo.
Eh ben oui. Non, je rigole pas du tout. Non, moi, match 7, ça rime forcément avec ce que j'appelle le tir le plus clutch de l'histoire. Kyrie Irving en 2016, Game 7.
J'ai l'histoire devant Jojo contre Utah et compagnie.
Game 7 en finale, t'es Kyrie Irving, t'es à l'extérieur, t'es face à Steph Curry qui est quand même t'es la plus grande équipe de l'histoire en face de toi. Pour moi, c'est le tir le plus clutch de l'histoire que met Kyrie Irving pour donner le titre à Cleveland. Et au-delà de ça, sur ce Game 7, c'est aussi un Kyrie qui va faire vraiment yeux dans les yeux avec, avec Steph Curry. Il va le défendre, il va même le stopper sur beaucoup d'actions, il va le contrer, le plancher plusieurs fois sur ces fameux lay-ups qu'il met très très haut. C'est un Kyrie Irving qui est tout simplement le meilleur meneur NBA à ce moment-là en fait. Il n'y a pas un mec qui peut jouer à ce niveau-là et ce tir, il est juste stratosphérique. Curry est en plein sur lui, ça step back, ça prend un tir ultra compliqué, ça rentre, ça libère je pense toute l'équipe de Cleveland et ça donne ce truc en plus. Enfin, ce match-là, je l'ai vu en direct. Franchement, j'ai jamais eu une sensation et une émotion comme ça de me dire, mais Kyrie est capable de faire ce truc-là. Mais qui est ce mec à 23 ans?
Même sur Canal+, un premier samedi du mois, t'as pas eu autant d'émotion.
Non, je te jure que non. Je te jure que non. Franchement, il tourne à 27 points sur les finales. Oui, c'est LeBron qui prendra le MVP. C'est logique. Il y a le contre. Il y a plein de trucs à mettre au crédit de LeBron qui va aussi faire beaucoup de rotations défensives sur Curry. Mais vraiment, Kyrie Irving à 23 ans, à ce moment-là, un Game 7 à l'extérieur, alors que tu remontes un 3 en finale, c'est juste exceptionnel ce qu'il a fait. Il a un meilleur pourcentage que Curry à 3 sur les finales. Je trouvais ça marrant comme petite stat et voilà, moi je trouve qu'on fera jamais mieux que ce tir là en fait. C'est trop exceptionnel si tu prends le fait que c'est une équipe qui a battu le record de victoire, etc. Enfin, il y a vraiment trop de narration autour de ce tir et de ses performances de Kyrie Irving et c'est un Kyrie qui me manque en fait, donc j'ai envie de le retrouver. Kyrie,
oh, cette déclaration d'amour. Kyrie, si tu nous écoutes, en t'écoutant, oui évidemment shoot important, mais moi le tir de Ray Allen face aux Spurs me marque plus.
C'est un match 6.
Match 6, c'est pas un match 7.
C'est pour la
et là, il parlait de tir clutch.
C'est pour la prolongation. Ouais. C'est pour le tir clutch. Contre les Sixers.
Ah oui, le.
Pas mal. Moi, quand je pense à un tir clutch, je pense à celui-là. Mais bon, après.
Fred.
On a les tirs qu'on veut. Donc, moi, j'ai choisi Walt Frazier.
Ah.
Et pourquoi j'ai choisi. Voilà.
C'est un monsieur qui met des costards.
C'est un monsieur qui fait des costumes.
Ouais. Ice cream man.
Et c'est un monsieur qui commente les matchs des Knicks, justement. J'ai voulu rester un peu dans la thématique et qui a toujours des costumes, effectivement, plutôt très folkloriques. Il faut se rappeler quand même que c'était un joueur assez exceptionnel. Il a été drafté en 5e position en 67. Alors oui, ça ne nous rajeunit pas, évidemment. Et il avait l'ambition de ramener le premier titre à la franchise de New York. Il se retrouve en finale en 70 contre les Lakers. Alors les 5 premiers matchs, il n'y a pas grand-chose à dire. Et finalement, le 6e match, c'est les Lakers qui prennent l'avantage. 135-113, match très facile pour les Lakers. Donc ils vont retourner au Madison, mais avec beaucoup, beaucoup de confiance, évidemment. Et là, on a un joueur, Walt Frazier, qui fait un match assez incroyable. Il faut juste se rappeler que dans l'équipe des Lakers, il y a Will Chamberlain, Baylor et Jerry West. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Walt Frazier ? Il dit, OK, moi je vais m'occuper de tout comme Steph Curry un petit peu. 36 points. 19 passes. Et en plus, il va défendre sur Jerry West, qui va laisser à 26 points. Alors 26 points, vous allez dire, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, sauf qu'il sera à 8 sur 24 au shoot et 0 passe décisive. Donc il aura gagné son duel. Il ramènera le premier titre grâce à une victoire 113-99 contre Los Angeles, le premier titre des Knicks. Et il sera aussi de la partie dans le deuxième titre, d'ailleurs, en 73.
Il n'y a pas du Phil Jackson ou c'est le titre d'après ? Il est dans l'effectif des Knicks parce qu'il a une bague.
Moi, je dirais que c'est le deuxième. Moi, je dirais que c'est en 73. Sans certitude. Donc voilà, ce joueur qu'on appelait Mr. Cool était juste incroyable.
Faut pas bafouiller sur le
non, c'est pour ça. Mr. Cool, sans problème. Il a été très fort, 36-19. À l'époque, c'était quand même monstrueux.
Puis qu'il y a un visage encore d'énigme. C'est vrai qu'on le voit commenter les matchs.
Ouais, quand on le voit, on dit c'est un excentrique. C'était juste un joueur fantastique, un artiste même pour certains.
Stephen.
Écoute, moi j'ai hésité, j'aurais pu prendre celui qui a longtemps eu la meilleure perf avant que Steph Curry.
KD.
J'aurais pu prendre KD, je me suis dit, bon, je vais pas prendre un mec qui a perdu quand même, parce qu'il chaussait du 50 alors qu'il a fait du 49.
Pied sur la ligne.
Il aurait le pied sur la ligne, mais je vais prendre LeBron James. Final Spurs Heat 2013, un match 7 décroché sur ce fameux tir de Ray Allen à 0 degré avec cette image triste pour nous français de Tony Parker qui essaye de défendre après un rebond offensif. Et LeBron James sur ce match 7. Enfin, même sur cette série, il va un petit peu déjouer les plans de Popovich et des Spurs parce que Pop avait pris l'option de laisser tous les tirs ouverts à LeBron James et de fermer la raquette justement pour empêcher sa force de percussion et d'aller finir au cercle et de provoquer des fautes. Et sur ce match 7, LeBron, il a puni le système défensif de Pop, 37 points, 5 sur 10 à 3 points, 12 rebonds, 4 passes et ce petit jumper à 2 points sur la tête de Kawhi Leonard pour sceller la victoire. C'était une énorme prestation de la part de LeBron James et il y a une petite histoire autour de ce match 7, c'est que le maillot porté par LeBron James sur la première mi-temps, parce qu'il change de maillot à la mi-temps, a été mis aux enchères et vendu pour $3,7 millions et c'est le quatrième maillot porté par un sportif le plus cher de l'histoire, après Jordan et le maillot en 98 sur la campagne de The Last Dance, vendu 11 millions de dollars. Il y a le maillot de Maradona où il a marqué le but de la main, la main de Dieu à la Coupe du Monde 86, 9,3 millions de dollars. Et Kobe, la saison 2007-2008 de Kobe, son maillot est parti très récemment à 6 millions de dollars. Voilà, c'est un maillot LeBron James, 3 millions de dollars pour ce match 7 et cette masterclass face à la défense de Pop.
C'est pas mal aussi pour juger l'importance dans l'histoire, les ventes de maillots, parce qu'on faisait un petit débat tout à l'heure, LeBron Curry.
Ouais, j'ai vendu mon maillot à Cholet pour 12,50€ sur Vinted.
Mais c'était pour une bonne cause.
Ouais, je sais pas si la bonne cause, 12,50€, je sais pas si ça a aidé beaucoup de causes. Hein.
C'est mieux que
y a
rien.
Il n'y a pas de petit don.
C'est un menu best-of.
Ouais, c'est un best-of, mais pas XL.
Mais pas XL.
Allez, le moment tant attendu pour terminer cet épisode de Basket Time, le quiz.
Godot, il n'y a pas de Tariq Abdulwahad. On s'est fait deux éléments majeurs en moins. Et c'est vrai que c'est... excusez-moi, je suis vraiment désolé. Allô ? Oui ? Attends chérie, je suis en train de répondre à une interview que je te laisse.
Et si c'était ça le principal danger pour les Bleus ? Un trop plein de sollicitations avant l'Euro ?
Je suis vraiment désolé. Hein.
Donc Fred Weiss avec son portable à clapet dans une interview à la télé.
Vous vous rendez pas compte, à l'époque il n'y avait pas tellement d'appels que ça, donc quand c'était un appel c'était assez sérieux quoi. On s'appelait pas pour dire t'as bien dormi.
Il
n'y
a pas tout le monde qui avait ton numéro, vraiment, si on t'appelait c'était un truc de ouf.
Ouais chérie, attends, je suis avec un journaliste.
En plus il y a la casquette, t'as une casquette,
c'était une casquette Kangol à l'époque, c'était à la mode.
Attends, mais tu ressembles à Tyler Hansbrough, je te jure. Je sais pas si tu te rappelles de Tyler Hansbrough.
Le mec de North Carolina, le boucher charcutier.
Ah oui.
T'as un peu la même dégaine que lui à la fin.
C'est vraiment, en plus la sonnerie, ça rappelle vraiment les tout premiers téléphones portables.
C'est dingue. Merci pour ce beau moment.
Si je peux rendre service.
Allez, on va écouter un son pour
attends,
commencer.
Attends. C'est un quiz. C'est quoi le thème?
C'est match 7, Curry et LeBron.
Ouf, c'est ça le thème? Match 7, Curry et LeBron.
Oui.
Ok, très bien.
Donc il faut répondre Curry ou LeBron, c'est ça?
Ou match 7.
Ça dépend. Voilà. Tiens, qui parle?
It's amazing. Another 20 rebound
Curry.
Game.
Oui, c'est Stephen Curry. Voilà, ça fait un point.
Ouais, il était enroué là.
Ouais.
C'était juste
COVID.
Après le match 7.
Covid.
Il parle de Kevin Looney, ses 20 rebonds notamment. On a parlé un petit peu des points communs entre Curry et LeBron. Ils ont le même nombre de bagues. Mais quel est leur tout premier point commun?
Akron, on est au même endroit.
Oui, bien joué.
L'hôpital, bien sûr, on connaît tous, pas du tout.
Bravo.
Parce que le papa d'El Curry jouait à Cleveland à l'époque.
Ouais.
Et donc Stephen Curry et LeBron James sont nés dans la même ville, Akron. Bon, LeBron, c'est vraiment son coin. Hein. Oui. Stephen a plus gardé du niveau de la Caroline. Des attaches, je crois, fan des Panthers de la Carolina. Un vrai ou faux? Fred, tu me dis 1, 2, 3. J'ai 3 propositions et...
Ça devient trop compliqué. Il faut dire vrai ou faux ou 1, 2, 3?
Non. D'abord, tu commences par 1, 2, 3.
D'accord.
1, 2, 3. Parce que j'ai 3 propositions comme ça.
Et après, tu finis par soleil, mais il ne faut pas bouger.
Moi, je suis un mec moyen, donc je vais prendre 2.
Tu vas prendre 2. Donc, c'est vrai ou faux? Stephen Curry a joué 7 matchs et il a pris 90 tirs à 3 points, soit près de 13 par match dans cette campagne de play-off. Est-ce que c'est vrai ou faux?
C'est vrai.
C'est vrai. Bonne réponse de Fred.
J'ai pas compris la question.
Moi non plus. Mais quand même,
il a pris 90 tirs sur la série.
Il a pris 90 tirs à 3 points sur la série.
Face à Sacramento.
Oui, est-ce que c'était vrai ou faux?
Ah ok, d'accord. Voilà.
C'est énorme quand même.
Stephen, 1 ou 3?
Stephen Curry quoi.
1 ou 3, c'est pour choisir la proposition.
1 ou 3, moi je vais prendre 3.
Avec 22 points de moyenne par match, LeBron James signe sa plus faible marque de sa carrière en playoff. Est-ce que c'est vrai ou faux?
C'est vrai.
C'est vrai. L'année dernière, il y a 2 ans, il était à 23,3 points, 23,7 points
petit joueur,
avec Miami lors de sa première saison. Et donc là, sur cette campagne,
c'est
22 points.
C'est pas ouf.
Même si ça peut augmenter. Mais après, c'est aussi LeBron James qui est aussi efficace.
Attention à ce que tu dis sur LeBron James. Hein, parce qu'après, il faut fermer ton compte Twitter, mon grand. Je te le dis.
Alors moi, j'espère rien parce que j'adore LeBron James, tout le monde le sait ça.
Sacha.
Je suis pas Sacha, quoi.
Bah, il reste le 1. Quoi?
Stephen Curry a une meilleure moyenne de points en playoff que LeBron.
C'est faux.
Et bien, c'est faux. 26,9 pour Stephen Curry, 28,5 pour LeBron. Et bien, vous faites un carton plein, c'est bien, messieurs.
Merci.
Moi, j'ai un point, merci beaucoup.
Ça va aller vite. Quelle est la dernière finale NBA à avoir été en 7 matchs?
Les Cavs Warriors 2016.
Exactement. La plus belle finale de ces dernières années ou pas?
Ouais, oui.
Bah, dès que ça va en match 7.
Pour le drame.
3-1, 4-3. Voilà. Magnifique.
Stephen, 3 points.
Oui.
Fred, 1 point. Sacha, 2 points. Alors, c'est 1 point par bonne réponse. Chacun avant tour. Je vais vous demander quelles sont les 3 franchises à n'avoir jamais gagné un match 7. C'est-à-dire que je vais voir Fred. Il va me donner une franchise. Si c'est faux, il est éliminé. On passe au suivant.
Il n'y a que trois franchises sur les
trois. Trois franchises qui n'ont jamais gagné un match 7. Oh,
c'est dur ça.
En play-off. Et puis Fred, comme tu n'as qu'un point, tu peux commencer.
Moi, je dirais les Sixers.
Non, c'est... les Sixers ne sont pas dedans.
En fait, il faut choisir une vieille franchise pourrie.
Exactement.
Qui
n'a
quasiment pas gagné de titre.
C'est clairement ce que je vais faire.
Sacha.
Je vais prendre les Hawks. J'ai aucun souvenir de Game 7 gagné.
Eh non, les Hawks, ils ont déjà gagné un Game 7.
Non.
Je pense à l'époque, années 80.
Terrible. Peut-être Washington, même plus récemment.
Alors,
pas sûr.
Dans l'histoire, trois franchises n'ont pas gagné. Ils n'en ont pas joué beaucoup. Hein.
Les Memphis Grizzlies.
C'est bon! Un point de plus. Et comme tu es encore en jeu, ils sont éliminés, tu peux tenter, il y a les deux autres, de trouver les deux autres. Là, c'est du bonus. Hein.
Je vais prendre le Charlotte Hornets.
C'est bon!
Oh, le crack.
Et il en reste une.
Il faut que je trouve une troisième franchise bien pourrave. Je
ça
vais
fait
prendre.
5 points pour
je vais
Stephen.
Prendre. Pas les Pistons, parce qu'à l'époque, ils ont gagné.
Oui.
Pas les Spurs, même si son dernier, c'est nul. Houston, ils ont dû gagner des matchs à 7 avec l'époque Hakim et compagnie. Franchise pourrie.
Allez.
Je vais prendre les Pelicans.
Eh ben c'est bon.
Waouh.
Là, ça mérite vraiment le respect. New Orleans, là, Charlotte et Memphis.
Bon, mais merci, c'était sympa ce quiz. Hein ?
Écoute, j'ai prévu une question subsidiaire et on peut revenir. 6 points pour Stephen, 1 pour Fred, 2 pour Sacha. Chaque avant-tour, oui. C'est un match. Arco Arena, 2 juin 2002. Match 7,
Arco Arena,
Sacramento Kings, Los Angeles Lakers. 19 joueurs sont rentrés sur le terrain et cette victoire mythique des Lakers face aux Sacramento Queens, comme avait dit un certain joueur. Citez-moi tous les joueurs qui sont rentrés, sur le terrain, qui ont joué ce match 7. On commence par Fred.
Kobe.
Ouais, Kobe, évidemment.
Non, en fait, cherchez Sacramento, en fait. Cherchez tous les mecs de Sacramento.
Kobe, c'est bon. Sacha.
Attends. 2002.
2002, match 7, Sacramento, Los Angeles.
Le Shaq.
Le Shaq, c'est bon. C'est lui qui avait dit les Sacramento
Rick
Queens.
Fox.
Rick Fox, c'est bon. Vous ne faites que le 5 des Lakers pour l'instant.
Bizarre.
Fred.
Robert Horry.
Robert Horry, c'est bon, évidemment. Dans le 5 aussi. On avait été en prolongation de ce match.
Je vais prendre le meilleur ami de Ronnie Price, Derek Fisher.
Derek Fisher. Vous avez fait le 5 des Lakers, c'est parfait.
Doug Christie.
Doug Christie, évidemment. 2 sur 11 quand même pour Doug Christie.
Oui, on n'a pas demandé de mettre des points, on a demandé d'être là pour le quiz.
Vladi.
Vlad Divac. Et oui, évidemment, dans le 5 des Kings. Sacha. Il y a quelques beaux noms. Alors, les Lakers, c'est chaud.
Il n'y a pas la réponse sur le téléphone.
Pas du tout, non. C'est le toc terrible.
Je pense qu'il faut aller chercher plutôt du côté des Kings. Les Lakers, ça commence à être chaud. J'ai les noms sous les yeux. Allez, Sacha.
Je vais tenter, mais je pense pas qu'il y soit, Jackson aux Kings.
Non, Jackson, mec, c'est un nom commun aux États-Unis. Essaye pas de nous mettre une banane.
Smith
et Dupont.
Attendez, vous êtes
Johnson.
Non, je sais pas, j'ai Bobby Jackson, j'ai un souvenir de ça, mais je pense que c'est pas.
C'est bon, Bobby Jackson, oui, bien joué.
Chris Webber.
Chris Webber, oui, évidemment. 9 sur 21. Là, il devait mettre des points un peu quand même, Chris Webber. Hein.
Mike Bibby.
Mike Bibby, et oui. 11 sur 25, il avait arrosé, 29 points. Toujours aussi précieux, le meneur, avec son bandeau. Sacha. Jean-Fred avait débuté. Non.
Attends, est-ce que ça fait...
Allez, faut y aller, Sacha.
Non, je vais dire Stojakovic, mais je suis pas sûr qu'il soit encore.
Paya Stojakovic, c'est bon.
Il m'a piqué le mien aussi.
Alors là, c'est chaud.
Non, c'est pas chaud. Idaïa Turkoglu.
Edo Turkoglu.
La sérénité.
Ah ouais, il a pas tremblé. Il était dans le 5. Alors là, c'est Fred, c'est chaud. On va peut-être se terminer sur une égalité pour ce quiz. Fred, c'est chaud. Hein.
C'est trouvable encore ? Il en reste combien, là ?
Moi, je pense que j'en aurais trouvé un. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais alors, au Lakers, s'il y en a un qui a joué 9 secondes...
9 secondes, ça compte. Hein.
Oui, ça compte. Il y en a deux qui sont trouvables, je pense. Un côté Lakers, un côté Kings.
À mon avis, il est déjà parti, mais White Chocolate ?
Jason Williams ?
Non, il n'y a pas Jason Williams. C'est pas bon.
Tu aurais pu dire Williams, peut-être qu'il y en a
c'était franchement, ça se tente. Je vais tenter un au Lakers, c'est Devin George.
Et oui, c'est bon.
Bravo.
Bravo. 5 minutes, 0 tir.
Je pense.
Pas Devin George. Attends, Fred, il me regarde bizarre. Super joueur.
Tu sortes. Non, c'est pas ça. Tu le sortes comme ça, là.
Ah non, j'ai des bons souvenirs de cette série-là.
Samaki Walker.
2 minutes 6 secondes pour Samaki Walker, les Lakers.
Scott Pollard.
Scott Pollard, c'est bon, 20 minutes aux Kings. Oh, Scott quel duel Pollard, sachant que là, il est en avance, Sacha. Il avait commencé avant toi.
Ouais, moi, t'inquiète pas, gros, je pense que j'en ai encore. Au Lakers, je pense qu'il y a Brian Shaw.
Eh oui, c'est bon. Égalité entre vous.
Purée.
Ah, c'est dur, là. Il en reste 3 secondes.
Y a pas
il en reste
Ham
3.
Au Lakers.
Darvin Ham.
Ouais.
Et non. Ah. Pas bon. Est-ce que tu plies l'affaire ou pas, Stephen?
Non, je ne peux pas la faire. J'étais short stack là, ça y est.
Allez, jump ball.
J'avais plus rien.
Et il restait Lindsay Hunter.
Ah, Lindsay Hunter, le chasseur.
Aux Lakers. Ensuite, ouais. Stanislav Medvedenko.
Ah oui,
il a joué.
Ouais. Mark Madsen, 9 secondes.
Mark Madsen, le grand blanc à l'intérieur là, des Lakers.
Ah, c'est terrible.
Ouais, mais pour s'en rappeler quand même.
C'est dur, c'est dur.
Allez, dernier pour terminer ce quiz. Est-ce que tu fais un all-in ou pas?
Bah, je fais toujours all-in.
Allez. Les meilleurs marqueurs en play-off en moyenne de points. Les 10 meilleurs marqueurs en play-off en moyenne de points.
En moyenne de points, très bien.
Pas au point cumulé, en moyenne de points. Allez-y, et on commence. Fred, tu me regardes.
Jojo.
Michael Jordan, quelle place, ton avis?
Bien placé.
Bah, vous avez dit premier.
Il est premier, 33,4 points de moyenne.
Abdul-Jabbar.
Nat. Il n'y est pas.
Non.
Karim Abdul-Jabbar.
Terrible.
Dans ce top 10.
Donc, attends, c'est il y a même des garçons qui n'ont pas joué beaucoup de séries de play-off, donc.
Non, oui, il y a des garçons qui n'ont pas joué beaucoup de séries de play-off.
Bah, je pense que Luka Doncic, il est dedans, alors.
Luka Doncic est bon, il est deuxième.
Voilà.
32,5. Fred.
Kevin Durant,
quatrième, 29,3.
Ah, t'es éliminé, pardon.
Oui, il est éliminé.
Allen Iverson,
troisième. Vous avez le top 4, 29,7.
Ok, donc LeBron, t'as dit qu'il était à 29,7.
28,5.
Ah, 28,5, ok.
C'est bon, LeBron. Stephen, les meilleurs marqueurs en playoff en moyenne de points. Vous avez cité Jordan.
Jerry West,
cinquième. Vous avez le top 6. En plus, on vous le fait presque dans l'ordre. 29,1. Et là, il y en a 4.
Moi, je vais tenter, mais James Harden.
Non, c'est pas bon.
Je vais tenter...
Stephen,
je vais tenter.
Qu'est-ce qui plie le match?
Donovan Mitchell.
C'est bon, 8e, 27,8. Il y avait également Anthony Edwards, 28,1.
KD, il est pas dedans.
Devin Booker,
27,7.
Et De'Aaron Fox, 27,4.
Wow. Ah oui, bah, c'est intéressant.
Ouais. Et des petits pièges.
Ouais, c'est ça.
C'est fort.
Bravo.
Merci beaucoup, messieurs. Et n'oubliez pas, un épisode bonus de Basket Time arrive cette semaine. Soyez vigilants. Très bonne
Soyez
semaine
vigilants.
De playoff. Mais oui, il faut être vigilant. Pour ne pas manquer cet épisode bonus, on vous le conseille. On va parler équipe de France et nos joueurs NBA. Bonne semaine. Ciao, ciao.
RMC Basket Time.